Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une joie pour moi de revenir parce que du coup je viens de Grenoble. Donc voilà, mes parents habitent à Crolles. Et voilà, ça fait plaisir de voir des têtes connues. Voilà, pour ceux qui le savent, vous avez le bonjour de mes parents. Et puis voilà, d'une manière générale, vous avez le bonjour de l'équipe du CEL, voilà, en région parisienne. Alors c'est une joie vraiment pour moi d'être ici et pour nous d'être ici. Voilà, en fait, donc moi je travaille au CEL depuis 6 ans maintenant. Je travaille au service communication. Et aujourd'hui, en fait, j'ai la joie d'accompagner Jean-Yves et Samuel qui nous viennent du Burkina Faso. Et on est là pour une tournée parrainage, donc pour parler un petit peu plus du parrainage. Alors le CEL, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je vais refaire une petite présentation pour ceux qui peut-être sont de passage et ne connaissent pas, pour remettre les choses dans leur contexte. Donc le CEL, on est une association chrétienne, une association humanitaire. Et en 2018, ça fait 38 ans qu'on existe, qu'on a été créé. Et au niveau du CEL, on a plusieurs missions. Donc la première mission est celle dont on va beaucoup parler ce matin, vous allez entendre parler, donc c'est le parrainage d'enfants. Au niveau du parrainage, à l'heure actuelle, il y a environ 10 500 enfants qui sont parrainés par la France, et donc sûrement parmi vous, il y en a certains qui sont parrains et marraines. Mais on a à cœur de ne pas être tout seul, et donc on travaille avec d'autres partenaires, et on n'est pas tout seul la France, il y a aussi l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, voilà. Et donc on fait partie d'un réseau international qui s'appelle Compassion, qui est présent dans 26 pays, dont le Burkina Faso, où il y a des enfants parrainés. Mais du coup, à l'échelle mondiale, c'est environ 1,7 million d'enfants qui sont parrainés. Voilà, et c'est toujours chouette de remettre en perspective, de voir tout ce qui est fait dans le monde. On a aussi toute une partie de projets de développement. Là, à l'année, c'est à peu près 90 projets qui sont financés. C'est avec des projets d'accès à l'eau, des puits, des forages, tout ce qui est assainissement. Il va y avoir aussi l'accès à la santé avec des centres de santé, des soutiens alimentaires, des soutiens à l'agriculture et aussi des petits microcrédits, voilà, pour que des personnes puissent faire des activités et avoir un revenu. On a aussi toute une action de sensibilisation et d'éducation au développement. Ça va être ici, en France, et on en parlera après. Vous avez une déléguée, quelqu'un, une représentante du CEL dans votre église. Et j'imagine que vous avez déjà fait peut-être des journées du CEL où les enfants ont peut-être déjà utilisé certains dossiers de sensibilisation. Où on essaye de faire des choses pour les enfants, pour les jeunes, des dossiers. Chaque année, on a sorti un jeu, on est en train de sortir un escape game pour les jeunes, des livres, voilà, des choses comme ça. Donc on essaye de sensibiliser, de parler de ces questions de pauvreté qui ne sont pas toujours évidentes à évoquer, de mettre à disposition des vidéos, ce genre de choses. Et enfin, on est présent au niveau du secours d'urgence, voilà, donc toujours via des partenaires chrétiens locaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer de missionnaires ou d'expatriés, mais dans tout ce qu'on fait sur place, sur le terrain, on va se caler et s'appuyer sur des ressources locales, sur des personnes qui montent leurs projets, qui connaissent le terrain et qui vont mettre en œuvre des choses. Et nous, on leur donne un petit peu un petit coup de pouce. Et là, bon, on vient de lancer, par exemple, une urgence. Vous avez su, il y a une semaine, il y a eu un séisme en Haïti. Voilà, donc on a lancé, par exemple, du secours d'urgence. Voilà un petit peu pour remettre en perspective le CEL. Et donc, on va plus se centrer sur le parrainage. Hop, je pensais qu'il y avait une petite... Mais donc, pour dire qu'on est en tournée depuis 2 semaines, en fait, avec nos amis du Burkina, voilà, qui sont arrivés. Et vous êtes la dernière assemblée qu'on visite. On a visité à peu près 13 assemblées. On était partout dans la France. On était en Belgique, à Lille, à Poitiers, à Jeun, Montpellier, Valence. Enfin, voilà, on a fait pas mal de choses, des réunions à chaque fois pour rencontrer les personnes. Et donc, c'est notre dernière... Dernière intervention, on est vraiment heureux d'être là et on se sent voilà, en famille avec vous. Alors je vais juste présenter et dire voilà, les amis qui y sont. Donc on a Samuel qui est là, alors qui se présentera personnellement. Mais Samuel, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 2 ans. Il a déjà fait une tournée parrainage avec nous, il a déjà sillonné la France et puis il connaît bien la France parce qu'il a fait des études de théologie en région parisienne. Et Jean-Yves, voilà, qui est aussi avec nous, qui nous nous parlera de son témoignage. Et Jean-Yves, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en janvier au Burkina. J'étais moi-même au Burkina Faso. On visitait un centre d'accueil de ma filleule. Puis le directeur nous a dit qu'il y avait un jeune qui était parmi eux, qui était là dès l'ouverture du centre, qui était un peu dans la première promo du centre d'accueil et qui avait grandi année après année, qui servait aujourd'hui au centre. Et donc, il nous a fait rencontrer Jean-Yves. On a entendu son témoignage, on l'a enregistré. Et puis, en revenant en France, on s'est dit, c'est un beau témoignage. Et si on le faisait venir pour qu'il puisse, que ce ne soit pas que nous qui en profitions, mais d'autres chrétiens. Et voilà, c'est comme ça qu'il est venu en France. Donc, je vais leur laisser la parole. Je vais laisser Jean-Marc présenter Samuel.
Ça marche. Samuel, tu peux venir. Donc on est heureux de vous accueillir, les amis, et puis de pouvoir écouter ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, Samuel. Et puis j'ai appris ce matin que Jean-Yves repart demain au Burkina, que Samuel repart en fin de mois au Burkina. Samuel est pasteur là-bas dans une église évangélique. Et on a du plaisir à les accueillir. Merci de votre passage, c'est vraiment chouette. Et puis... vous pourrez quitter les vestes et les manteaux une fois que vous serez arrivé au Burkina. On va prier pour cette prédication. Samuel, tu veux bien ? Seigneur, on veut te remercier pour ce temps que l'on peut avoir ensemble pour partager autour de toi, autour de ta parole. Seigneur, instruis-nous encore ce matin, enseigne-nous, s'il te plaît. Bénis ta parole, bénis ton serviteur aussi, Samuel, dans ses projets, dans son action, dans son église au Burkina et auprès du sel. Glorifie-toi, Seigneur, à travers ce temps que nous allons partager. Amen.
Je voudrais avant tout dire merci et bonjour à tous et à toutes. Et aussi merci pour votre accueil, combien chaleureux. Je vous apporte le salut fraternel du Burkina Faso. Et c'est pour nous un grand plaisir d'être là ce matin et de célébrer et adorer le Seigneur avec vous. Nous allons méditer quelques textes bibliques tirés de Galates, chapitre 2, et 2 Corinthiens, le chapitre 8. Mon message est orienté sur la mission du sel, et j'ai intitulé la prédication de ce matin avec le sel, c'est le don qui fait la différence. Je vous invite à lire avec moi dans Galates, le chapitre 2. Je commence la lecture à partir du verset 8. Mais les personnes considérées personnalités, ce qu'ils étaient alors, peu m'importe. Dieu ne regarde pas à la situation des hommes. Ces personnes ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils virent que l'évangélisation des incirconcis m'a été confiée, comme à Pierre, celle des circoncis. Car celui qui avait agi en Pierre pour l'apostolat des circoncis avait aussi agi en moi en faveur des païens. Et reconnaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Cephas, Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à moi et à Barnabas en signe de communion, afin que nous allions, nous, vers les païens, eux, les circoncis. Simplement, nous aurions à nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Amen. Je suis pasteur d'une toute petite communauté d'environ 250 adultes. J'ai le même âge que le sel, 38 ans. Je suis marié, j'ai deux enfants, Christ vit pour dire que Christ est vivant, Christ croit pour dire que Christ est capable. Et je pense que c'est l'essentiel pour mieux connaître. Le reste, on rend grâce à Dieu pour toutes choses. À partir du texte que nous avons lu, On aurait pu poursuivre la lecture avec 2 Corinthiens, le chapitre 8, versets 5 à 8. Mais nous allons nous limiter à ce seul texte. Mais dans le commentaire que nous allons suivre, nous allons puiser quelques éléments dans 2 Corinthiens, le chapitre 8. Je vous propose le plan suivant pour ma méditation. D'abord, nous verrons dans l'Ancien Testament quelques perspectives de lutte contre la pauvreté. Et ensuite, nous allons réfléchir à partir du Nouveau Testament, sur la base du Nouveau Testament, mais principalement sur les textes indiqués au tableau, Galates 2 et 2 Corinthiens 8. Et en troisième position, nous verrons les fondements de la prise en charge des pauvres. Dieu d'abord, Christ ensuite, nous enfin. Et pour finir, nous verrons quelques applications à la lumière du ministère du sel. Chez nous, il est question de compassion internationale, comme Doris l'a bien indiqué, qui est partenaire avec le sel. Et dans le centre où j'ai été directeur pendant 4 ans et que l'Église héberge toujours un centre de parrainage, nous avons commencé en 2007 avec 165 enfants. À ce jour, nous sommes à 385 enfants précisément. Ce sont des enfants qui nous viennent de partout, sans discrimination aucune. Ils sont acceptés dans l'Église pour bénéficier des avantages que nous offre le parrainage. Et ces enfants sont recrutés à partir de quelques critères bien précis. Il s'agit de recruter des enfants de 4 ans, 4 à 7 ans, et 4 à 7 ans, pour pouvoir leur offrir une éducation, une scolarisation. Parce qu'au-delà de cet âge, dans mon pays, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Il s'agit aussi de recruter les plus pauvres parmi les pauvres. J'imagine que beaucoup d'entre vous ici connaissent très bien notre très chère patrie, le Burkina Faso, et que tout le monde le sait, c'est un pays qui est pauvre. Mais au milieu des pauvres, il y en a de plus pauvres. Et l'action du sel ou de compassion internationale est orientée sur les plus pauvres. Et enfin, il faut recruter des enfants qui ne sont pas éloignés du centre, puisqu'ils doivent venir tous les jeudis ou tous les samedis, ou chaque fois qu'ils n'ont pas cours à l'école, pour bénéficier de plusieurs enseignements. Et je fais là une mention des enseignements que les enfants reçoivent au centre. D'abord, il s'agit de leur donner des enseignements d'ordre spirituel. Le centre de parrainage est hébergé dans une église. Et nous estimons que l'église, à partir de l'évangile qui est lu et prêché tous les jours, a des valeurs à partager avec le monde et avec les autres. Et pendant ces périodes d'enseignement, les enfants sont instruits sur la parole de Dieu à travers les méditations bibliques, à travers des apprentissages de versets bibliques, à travers l'apprentissage de chant. Il y a aussi des sketchs et des ballets organisés à l'intention des enfants. Et je note ici que dans mon pays, 60% de la population est musulmane. Et au sein de notre centre de parrainage, on note aussi plus de 60% des enfants qui sont musulmans. Et pour nous, c'est une opportunité d'annoncer l'évangile, sans toutefois chercher à les convertir coûte que coûte. Notre devoir, c'est de présenter Christ. Et maintenant, quand ils seront grands, ils auront le choix, ils auront la possibilité de choisir la personne à qui ils veulent confier leur vie. Et je note ici que les parents nous font confiance, bien qu'ils soient musulmans. Ils nous font confiance en nous confiant à leurs enfants. Et là, je profite vous remercier pour les prières que vous faites à l'intention du Burkina Faso, parce que nous avons connu quelques troubles. Mais grâce à Dieu, le pays va bien. Et nous comptons toujours sur vos prières pour que cette paix et cette collaboration cette cohésion entre les différents peuples puisse continuer. Et en plus des enseignements spirituels, il y a des enseignements dits sociaux, émotionnels, pour permettre à l'enfant de se connaître lui-même et de connaître l'autre. Dans un deuxième ordre, pour permettre à l'enfant de connaître son pays et de connaître les autres pays. La plupart des enfants qui sont dans notre centre sont parrainés par des parrains qui sont aux États-Unis ou en France ou dans bien d'autres pays. Il est donc de notre devoir de leur expliquer ce que c'est que les autres pays qui ne sont pas le Burkina Faso. Et cela leur permet d'entretenir des relations, d'écrire et d'échanger avec leurs parrains. Il s'agit aussi de sensibiliser les enfants et sensibiliser les familles des enfants pour qu'ils puissent bien se comporter, bien vivre. On sait au Burkina Faso que la plupart des maladies sont liées à l'hygiène ou au manque à l'eau, à la consommation d'eau non potable. Et au niveau du centre, il y a d'abord des sensibilisations qui sont faites pour changer les mentalités et permettre aux gens d'adopter des attitudes et des comportements qui leur permettraient d'abord de sortir de la pauvreté et ensuite de se porter très bien. Et je pense que cette action qui est menée par les centres de développement pour enfants, c'est ainsi qu'on les appelle dans mon pays, trouve sa base et son appui dans la parole de Dieu. Et le texte que nous avons lu, celui de Galates 2, nous donne pas mal de renseignements et nous allons puiser l'essentiel de notre réflexion sur ce texte-là. D'abord, permettez-moi de dire que si, dans l'instruction de Pierre, Jean, Jacques, dans le texte lu, il s'agit bien de Céphas, nous estimons que c'est à base ou à la lumière de l'Ancien Testament qu'ils ont recommandé Paul et Barnabas de bien se souvenir des pauvres. Et vous allez me permettre ici de rappeler quelques textes de l'Ancien Testament qui viennent en mémoire quand Pierre et Jean et Jacques s'adressent à Paul et à Barnabas. On voit d'abord dans l'Ancien Testament les recommandations à la bienveillance et à la bienséance. On peut citer Proverbe 14, le verset 31, qui dit exactement ceci. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Et ce n'est pas tout. Proverbe 22, 16, va plus loin en disant, opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. On peut même continuer. Proverbe 31, ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Il y a donc des recommandations régulières et constantes à l'endroit du peuple de Dieu à prendre soin des plus pauvres, à ne pas oublier les plus pauvres. Et c'est exactement ce que Pierre, Jean et Jacques disent à Paul et à Barnabas. On peut poursuivre dans l'Ancien Testament. Il y a le glanage des champs. Annuellement, dans les champs de blé, les vignes et d'autres plantations, les pauvres, les indigents, les veuves, les orphelins, les plus vulnérables sont autorisés à passer dans les champs de ceux qui obtiennent ou qui ont obtenu une bonne récolte. Et je pense que la récolte est faite de manière à laisser des épis ou des fruits pour que les pauvres puissent s'en servir. Et cela s'ajoute aux recommandations régulières faites dans la parole de Dieu. Il n'y a pas que ça. On pourrait aussi mentionner ici la participation à la table des riches tous les 3 ans. Et là, c'est une opportunité donnée aux pauvres. Dans toutes les communautés du monde, il y a la classe des riches et la classe des pauvres. Et aussi en Israël. Mais la différence en Israël, c'est qu'une opportunité est donnée à ce point-là aux pauvres, aux indigents, aux vulnérables, une fois tous les 3 ans, de s'asseoir à la même table avec les riches et de manger et de boire et de partager les mets les plus succulents qu'on trouve sur la table des riches. Et cette fête-là est appelée la célébration des repas des dîmes. Et ça se fait tous les 3 ans. Il n'y a pas que ça. On pourrait aussi mentionner le grappillage dans les vignes, dans les plantations d'oliviers et les vergers. Et là, c'est à chaque année sabbatique, tous les 7 ans. Et là, toutes ces mentions sont là pour dire au peuple d'Israël, ne méprisez pas le pauvre, n'ignorez pas le pauvre, n'abandonnez pas le pauvre. Et je termine avec l'Ancien Testament en mentionnant la reprise de ces terres à chaque année jubilaire, tous les 50 ans. Tous ceux qui, forcés par la pauvreté, par la misère, par l'indigence, avaient été obligés de vendre leurs terres, leurs champs, leurs possessions, les mêmes terres, les champs et les possessions, leur étaient rétrocédées tous les 50 ans. Et c'est formidable. Pour permettre aux pauvres de garder ses propriétés et de garder du coup sa dignité et sa personnalité. L'Ancien Testament nous donne pas mal d'exemples et j'aurais pu continuer en citant d'autres textes et d'autres recommandations à l'intention des enfants d'Israël pour que le pauvre soit accepté et mieux traité. L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses. La lumière qui resplendit sous nos yeux, c'est le Nouveau Testament qui nous dit les choses de façon claire et de façon explicite. Et là, nous revenons à notre texte de base, Galates 2 et 2 Corinthiens, le chapitre 8. Je mentionne ici d'abord Jacques, Céphas et Jean n'ont dit qu'une seule chose à Paul et à Barnabas. La seule recommandation qui leur a été donnée est la suivante. Souviens-toi des pauvres. Et en poursuivant la lecture, dans plusieurs autres textes, on pourrait vérifier si Paul et Barnabas ont suivi ou bien s'ils ont relégué au second rang la recommandation des plus estimés des frères. C'est ce que le texte que nous avons lu nous dit. Et il suffit là de lire Actes 11, 30 et nous saurons tout de suite que les deux apôtres ont mis en application ce qui leur a été donné. D'abord parce que l'Église de Jérusalem avait tant faim, avait beaucoup faim pour les autres églises dites païennes. Mais à un moment donné, cette Église qui a été si généreuse et qui a apporté beaucoup aux autres, s'est appauvrie. Et c'est le tour des autres églises dites païennes qui devraient alors à leur tour apporter son soutien, apporter ses richesses à l'église de Jérusalem. Et là, il y a toute une collecte qui se fait dans les autres églises pour apporter le soutien à l'église de Jérusalem. Cela se voit dans Actes, le chapitre 11, le verset 30. Permettez-moi de lire 1 Corinthiens 16, le verset 1 à 4 pour illustrer davantage mon propos. Et il est dit ceci, pour ce qui concerne la collecte, en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. J'aurais pu commencer ma lecture un peu plus tôt, vous verrez que cette collecte s'est faite pour pouvoir venir subvenir aux besoins des personnes nécessiteuses, mais qui sont des saints, et nous allons encore en parler, dans la fraternité en Christ Jésus. Nous pouvons, sur la base de l'Ancien Testament, dire que le fruit de l'amour chrétien dans l'Église primitive, c'est 2 points. Le soin des pauvres, les malades et de tous les êtres souffrants. Quand on aborde la question de la pauvreté et du soutien des personnes nécessiteuses, on aurait voulu quelques bases, quelques fondements sur lesquels nous pouvons puiser notre modèle ou notre exemple. Sans aller trop loin dans mon commentaire, je vais juste citer ici les éléments fondamentaux ou les bases fondamentales. Notre action s'inspire sur ce qu'est Dieu lui-même. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Dieu se présente comme une personne généreuse qui donne abondamment et quelquefois, il donne même à l'excès. À ce propos, j'ai pu lire Henri Blocher, que peut-être certains d'entre vous connaissent très bien, qui, en parlant de la gestion des biens, la bonne intendance, ouvre une parenthèse pour dire que Dieu, quelquefois, quand on le considère de manière humaine, on pourrait même dire qu'il va au-delà de la bonne intendance. Et il a juste pris quelques exemples. Des fruits qui parfois pourrissent dans les champs ou en brousse et dont personne ne s'en sert. Et il soutient en disant, c'est Dieu qui donne généreusement. Je suis du Burkina Faso et une partie du Burkina Faso est bien arrosée. L'ouest du pays est bien arrosé, donc Bobo, Gawa. Et c'est une partie où on fait des plantations de manguiers et tout le pays bénéficie des services de cette partie du pays. À la période des mangues au Burkina Faso, il arrive à des moments où les humains n'en veulent pas. Et c'est donné aux pauvres. Et quand je vois ça, quand je vois cela, je pense à ce Dieu-là qui donne en abondance, au-delà même du besoin. Et je pense que c'est dans ce sens que l'auteur bien connu de la France, Henri Blocher, aborde les questions. De façon générale, on pourrait aussi dire que c'est ce Dieu qui, sans tenir compte de notre appartenance, ou de nos mérites, de nos capacités, de qui nous sommes, donne autant aux pauvres qu'aux riches, aux noirs comme aux blancs, au père, à toutes les personnes, le soleil en abondance. Parler du soleil en abondance ici, je ne sais pas si cela sied, mais en tant que Burkinabé, nous en avons eu et nous en avons en abondance. C'est ce même Dieu qui fait tomber la pluie pour tout le monde. Je suis dans un pays où il pleut très peu. Mais ce qui tombe sur la terre, c'est suffisant. Seulement 3 à 4 mois de pluie par an, mais suffisant pour s'aimer et pour récolter. Qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il est splendide, ce Dieu-là. Les qualificatifs me manquent pour dire exactement ce qu'il est pour moi et aussi ce qu'il est pour vous. On pourrait tirer quelques qualificatifs de la Bible, parole de Dieu. Mais nous allons poursuivre dans notre réflexion. Il n'y a pas que Dieu. Jésus, à l'instar de son Père, a manifesté aussi une grande générosité. Le premier texte a été lu par le directeur du culte. Je vous propose celui de Luc 4, 18. Et là, il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Tout est dit là, sa mission, sa vocation, ce pourquoi il est venu. Et de façon généreuse, il a accompli sa mission en s'intéressant d'abord à l'âme des humains, à la pauvreté spirituelle. Et il s'est affronté à cette pauvreté de front. Il s'est attaqué à cette pauvreté de front pour que les hommes puissent bénéficier du salut en sa personne. Le royaume de Dieu est parmi vous, dit-il. Et c'est aux violents de s'en emparer, ajoute-t-il. Mais au-delà de la pauvreté spirituelle, le maître de l'univers, le Seigneur Jésus, est allé plus loin en tendant la main aux nécessiteux, aux indigents, aux malades, aux personnes vulnérables, aux pécheurs, au point que certains Israélites, les Sadduciens, les Pharisiens, étaient stupéfaits, étaient choqués. Mais pourquoi mange-t-il avec les gens d'une mauvaise vie? Et là, je retiens dans mon propos sa générosité qui va au-delà de la limite d'Israël. Cette femme syrophénicienne qui a bénéficié de ses largesses. Quel Dieu, Jésus-Christ. On peut poursuivre. Si Dieu l'a fait et que son Fils l'a fait, à travers Christ, nous sommes aussi considérés comme les fils de Dieu. Et en parlant de cela, le texte qui me vient en mémoire est celui de Colossiens, le chapitre 1, le verset 15. Quand je lis la parole de Dieu et quand je considère les textes bibliques, je me sens à l'aise et je me réjouis. Pourquoi? Parce que je me trouve dans une famille, la famille de Dieu. Quelques expressions nous viennent à l'esprit. D'abord, Dieu lui-même se présente comme un père. Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Dieu est un père. Jésus est son fils. Et nous sommes aussi ses enfants. Plus loin, sous la plume de l'apôtre Paul, et dans beaucoup d'autres textes, au moins 9, Jésus-Christ est cité comme un frère aîné. Il est frère, mais c'est lui le frère aîné. Donc on a un Dieu qui est père, et on a un fils qui est frère aîné. Et du coup, nous sommes tous des cadets, nous sommes tous des frères avec le frère aîné. Et j'aime très bien cette expression, frère aîné. Ça crée une sorte d'identification, de rapprochement entre nous et Christ lui-même. Et nous nous situons tous dans la famille de Dieu. Où que nous soyons, pourvu que nous ayons accepté le message de l'Évangile et que nous nous repentons, nous sommes acceptés, lavés par le sang de Jésus, nous sommes dans la famille de Dieu. Quand je me retrouve ici en France, ma première fois c'était en 2011, je n'ai vraiment pas eu de difficulté en France ici parce que je me suis toujours dit, je suis dans ma famille, la famille de Dieu. Ce qui paraît différent est tout simplement superficiel. Quand on gratte un peu en profondeur, on va trouver autre chose et nous nous retrouvons toujours dans la famille de Dieu. Et ici dans cette église, je m'adresse à des frères et à des sœurs. Et je sais que partout dans le monde aujourd'hui, d'autres frères et sœurs se réjouissent avec nous et célèbrent le Seigneur. Mais il y a des implications si nous sommes frères et sœurs. Les implications sont les suivantes. C'est la solidarité à l'endroit des cadets. Cadets auraient pour moi deux sens ici. D'abord, Jésus, qui a été solidaire à l'endroit des cadets que nous sommes. Et sa solidarité, il l'a manifestée. Comment? En donnant sa propre vie. Et il nous demande l'appareil. Même chose. Si nous sommes des frères, nous avons l'obligation de la solidarité les uns envers les autres. La deuxième chose, si nous sommes frères en Christ Jésus, nous devons veiller, travailler, contribuer à améliorer l'image de Dieu chez les plus pauvres. Je ne vous apprends absolument rien. Vous le savez mieux que moi. La pauvreté défigure. La pauvreté dénature. La pauvreté change totalement et abîme l'image de Dieu. Vous acceptez avec moi qu'avec l'avènement du péché, l'image de Dieu a déjà été abîmée à l'homme et que Christ restaure cette image, mais elle sera totalement restaurée quand nous serons dans sa gloire. Mais en attendant, la pauvreté défigure davantage, dénature davantage. J'ai pu voir dans le centre où je suis, en compagnie de 385 enfants parrainés, des personnes fragiles et totalement défigurées par le péché, par la pauvreté. Et l'action du sel, et aussi notre action sur le terrain, c'est contribuer à rehausser l'image de Dieu en la personne humaine. Qu'en regardant le petit enfant que je croise sur la route ou qui vient dans mon centre, que je vois Dieu à travers ce petit enfant. Troisièmement, nous avons aussi un devoir d'exemplarité. Et l'aîné a le devoir d'exemplarité envers les cadets. C'est ce que Christ a fait. Tout ce qu'il nous demande de faire, il a été d'abord le modèle. Et il dit ensuite, faites comme moi. En amour, en don de soi. Et il nous demande aussi d'aller et de faire comme lui. Et en matière de don, comme je l'ai indiqué dans mon thème, le don qui fait la différence, mon ministère parmi les enfants me permet de voir plusieurs sortes de dons qui peuvent être utilisés pour l'édification du corps de Christ, de l'Église. Il y en a qui donnent de leur temps, beaucoup donnent de leur talent, il y en a qui donnent de leur capacité physique, il y en a qui donnent de leur capacité intellectuelle, capacité à réfléchir, capacité à faire des synthèses. Il y en a aussi qui donnent de leur force. Et il y en a, surtout les derniers, et ceux dont nous allons parler ici tout à l'heure, qui donnent aussi de leur argent, de leurs moyens financiers. Et à travers les dons que vous apportez aux centres de parrainage qui sont dans mon pays et ailleurs, nous voyons le message de l'Évangile être annoncé aux plus pauvres. Et ceci dit, je touche le dernier point de ma méditation. Quelle application à la lumière du ministère du sel? Je vais d'abord citer ici le secours apporté aux pauvres qui fut dans le texte, je vais au texte, dans l'Église primitive, non seulement le fruit de l'amour chrétien, mais un lien puissant entre les églises judéo-chrétiennes et celles qui sortaient du paganisme. Et je dirais ici que les églises du Sud ont besoin de celles du Nord. Si, toutefois, nous sommes des frères, si la fraternité en Christ n'existe pas, alors bon, chacun se débrouille. Chez moi, on dit, ici vous dites, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chez nous, on dit, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et d'ailleurs, dans ce sens, je pense que je peux vous appliquer le terme aîné. Dans le sens où vous avez reçu l'évangile avant. Et aussi dans le sens où ce même évangile nous a été apporté par vous. Vous êtes donc aînés. Et la solidarité que nous bénéficions de vos dons nous permet de faire beaucoup de choses. Je vais juste citer quelques exemples. Le parrainage permet d'annoncer l'évangile de la manière la plus efficace. C'est donc un moyen efficace d'évangélisation. Je vous ai dit que nous avons 385 enfants, 60% de musulmans. Ce sont des êtres fragiles, des gens en qui on peut toujours inculquer des valeurs. Et nous leur partageons l'évangile. Et ils écoutent. Jusque-là, il n'y a vraiment pas de problème. Ceux qui connaissent les Burkinabés savent que c'est notre expression la plus chère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. L'évangile est annoncé aux plus pauvres. Et on va plus loin. Chaque fois que le centre tient ses activités, les parents des enfants sont parfois conviés. Ils sont musulmans. Ils sont d'autres religions. Ils viennent à l'église. Le message de la parole de Dieu est annoncé. Ils écoutent. Et ensuite, on fait la sensibilisation. On n'aurait vraiment pas eu l'opportunité de leur annoncer le message n'eût été par le biais du parrainage. Ils étaient là avant. La localité dans laquelle je suis, j'y suis depuis 1993. Donc j'ai vu les choses évoluer. Mais là, c'est une occasion sacrée pour annoncer la bonne nouvelle. Et pour tous ceux qui parmi vous sont intéressés par l'annonce de la bonne nouvelle partout dans le monde, d'abord on peut retenir que nous avons là un moyen efficace pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a un deuxième point. Le secours apporté aux pauvres, joint à la prédication de l'Évangile, est un puissant moyen pour communiquer l'Évangile et les valeurs qu'il véhicule aux jeunes. Et on pourrait citer ici quelques exemples. Éducation et la santé. Ce sont deux grands domaines dans lesquels le centre de parrainage agit. L'éducation. Je précise ici que, puisque vous connaissez le Burkina Faso, vous convenez avec moi qu'au Burkina Faso, on a une couche qui peut prendre en charge ses enfants. Là n'est pas le problème. Mais il y a une autre couche très vulnérable qui ne peut pas prendre en charge ses enfants. Et pour ces personnes vulnérables, le centre permet de les accompagner et de les aider à éduquer leurs enfants. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que vous faites pratiquement? Oui, de façon précise, je vous dis. C'est le centre de parrainage qui paie la scolarisation. C'est le centre de parrainage qui octroie les fournitures scolaires. C'est le centre de parrainage qui paie la tenue scolaire. C'est le centre de parrainage qui engage des enseignants pour le suivi des écoliers ou des collégiens. Que c'est beau pour une famille démunie et totalement vulnérable, que c'est beau d'apporter son soutien à cette famille. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la santé. La santé de ses enfants sont prises en charge. Qu'est-ce qui est fait de façon pratique? Précisément, la consultation, les frais de consultation sont pris en charge par le centre. Je mentionne ici, entre parenthèses, que l'assurance santé n'existe pas chez nous. Chacun s'assoit et Dieu le pousse. Les frais liés à l'achat des médicaments sont pris en charge par le centre. En cas d'hospitalisation, les frais d'hospitalisation sont pris en charge par le centre. Ça fait déjà trois. Chez nous, on dit 3, c'est le chiffre de l'homme. Mais je vais aller à 4, c'est le chiffre de la femme. En cas d'évacuation, interne ou externe, les frais sont totalement pris en charge par le centre de parrainage. Que faut-il plus? Les domaines essentiels de la vie sont pris en charge. Mais il n'y a pas que ça. Je vous cite un troisième domaine avant de m'arrêter. C'est le domaine des AGR, activités génératrices de revenus. Je précise ici que nous sommes dans un contexte de familles nombreuses. On a deux types de familles au Burkina Faso, polygamiques et monogamiques. Monogamiques pour les familles chrétiennes, polygamiques pour les familles musulmanes et aussi les quelques rares familles en voie de disparition animistes. Déjà pour des familles monogamiques, nous sommes dans un contexte où c'est deux. Je commence par deux, parce que dans le milieu où je suis, les jeunes de mon âge ne vont plus jusqu'à quatre, mais c'est peut-être deux, trois, parce qu'ils sont aussi en ville. Le contexte de la ville est totalement différent du contexte du village. Ils ne peuvent pas se donner le luxe de faire beaucoup d'enfants. Donc, mais on va quand même jusqu'à 4, jusqu'à 5. Et on a des familles polygamiques où, quelquefois, les femmes se rivalisent de maternité. Et là, c'est des contextes de familles nombreuses. Et c'est seulement un seul enfant qui est pris en charge par le parrainage. Vous allez me poser la question, mais et les autres? Oui, pour les autres, on a trouvé une stratégie. Il s'agit de donner une activité génératrice de revenus aux parents. Ils vont travailler et ils vont prendre en charge leur famille et les autres enfants. Très bien. Génial. C'est super. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est fait de façon pratique? On a deux types de parents. Ceux qui ont une formation, mais qui n'ont pas les moyens de commencer une activité. Ils ont des compétences en menuiserie, en maçonnerie, en soudure, mais les moyens manquent pour commencer une activité. Le centre de parrainage leur donne les moyens pour commencer une activité. On a là l'exemple de Valentin, un homme bien, simple, qui a déjà travaillé, qui a déjà pris en charge sa famille, mais touché par le VIH, donc PVVIH, il a tout vendu pour se soigner. Il est donc devenu une personne vulnérable. Grâce à son enfant qui a été recruté au centre, nous avons identifié qu'il avait des compétences et c'est quelqu'un qui veut travailler. On lui a donné le matériel pour qu'il puisse reprendre sa menuiserie. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'apporter des vivres à la famille de Valentin. Il se prend en charge, il prend en charge sa famille, il éduque ses enfants, il soigne ses enfants. Le seul enfant parrainé du centre qui est de sa famille reste avec nous et nous l'accompagnons jusqu'à ce qu'il puisse obtenir son baccalauréat. Un exemple frappant et palpable et aussi vérifiable. Si un jour vous êtes au Burkina Faso, passez dans la ville où je suis, c'est Zinyalé, juste 25 km de Ouagadougou, et je vais vous montrer la famille. Il y a aussi certaines familles qui ont choisi de faire de l'élevage parce qu'ils avaient des compétences en élevage. Et là, on leur donne les moyens de faire de l'élevage. Et c'est accompagné de formation. Il y en a qui veulent faire du commerce, mais ils font du commerce et c'est accompagné de formation. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à vous raconter. En conclusion, on retient juste 4 points. Parce que j'ai tellement parlé. Et si vous avez tout oublié, retenez ce que je vais dire maintenant. 1. À travers le parrainage, nous changeons le monde d'un enfant et ou de sa famille en exerçant une solidarité pratique et agissante. Point. 2. À travers le parrainage, nous contribuons à donner le sourire à des enfants totalement démunis. 3. 3. À travers le parrainage, nous contribuons à améliorer l'image de Dieu chez les plus pauvres. Et enfin, à travers le parrainage, nous donnons un avenir et une espérance au nom de Jésus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais du coup introduire Jean-Yves, qui est un enfant parrainé et qui a bénéficié de tous les services dont je viens de faire mention. Donc c'est l'expression visible de l'invisible que je viens de vous faire mention. Merci.
Bonjour à tous et à tous. Et merci pour l'accueil déjà chaleureux. D'accord. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je suis en première année géographie et tout ça déjà grâce à Dieu et grâce au soutien du parrainage. Voilà, donc je vais commencer par présenter ma famille. J'ai apporté avec moi quelques photos pour vous présenter aussi ma famille. Et je suis très content de pouvoir partager avec vous mon témoignage, ma vie avant le parrainage, ma vie après le parrainage et tous les avantages que j'ai reçus du parrainage. Donc, je commence. Je suis né dans une famille vraiment très pauvre, en difficulté, parce que je suis né avec... je suis né du côté de la maman, voilà, avec l'appui de la grand-mère, j'ai été élevé. Parce que je n'ai pas connu mon papa, premièrement, quand j'étais petit. Je ne l'ai pas très bien connu. Voilà, il est marié à une autre femme. Et moi, je suis né hors mariage. Il a rencontré ma maman. Et du coup, je suis né ainsi. Donc, je suis resté pendant longtemps caché du côté de la maman. Le papa, il ne prenait pas en charge. C'est la maman toute seule avec la grand-mère qui ont fait le boulot, qui m'ont élevé, qui m'ont accompagné, m'ont soutenu et ont fait de moi ce que je suis actuellement. Donc, j'ai des photos que j'ai apportées avec moi. La photo un peu plus à gauche, c'est la photo de la maman. Voilà. Et j'ai une photo également où je suis entre une tante et une cousine. La tante, elle est à gauche et la cousine à droite. Et un peu plus en haut, je suis avec les grandes-mères. Et voilà, une autre tante un peu à gauche. Voilà. Donc, ensuite, j'ai une photo pas totalement entière de la famille dans laquelle je vis actuellement. Je suis avec la grand-mère. La maman, elle est décédée. Voilà, je suis à l'âge de 13 ans, je l'ai perdue déjà. Donc, je vis actuellement avec ma grand-mère, mon oncle, son épouse avec la sœur également, une cousine et ses deux petites sœurs. Et c'est la grand-mère qui tient la petite fille qui a beaucoup plus, qui m'a beaucoup soutenue avec la maman aussi quand elle était vivante. Voilà. Donc, du coup, je raconte comment je suis arrivé au centre d'accueil. Déjà avec, je dirais, le peu, voilà, je n'avais pas la présence du papa, la maman toute seule, avec elle souffrait du cancer de sein quand j'étais petit. Donc c'était compliqué pour elle. Elle n'avait pas de boulot aussi. La grand-mère était déjà avancée en âge. C'était difficile pour elle aussi de me soutenir. Et elle a également des maux d'yeux. Voilà, donc la maman, malheureusement, je l'ai perdue à 13 ans. Voilà, donc déjà les problèmes qui se posaient, c'était la scolarité. Avec sa santé, elle n'arrivait plus à me scolariser. Et même mes problèmes de santé, c'était compliqué deux fois. Voilà. La tante, la photo précédente, dont la tante, elle est mariée à un pasteur. Et c'est grâce à eux que nous avons appris l'ouverture d'un centre d'accueil. Et directement, la tante a informé à la famille, à la maman et à la grand-mère de m'amener au centre d'accueil pour qu'ils puissent m'apporter aussi leur soutien, m'accueillir là-bas et essayer de me soutenir aussi. Donc, quand elles sont arrivées au centre d'accueil, j'ai dit, ma grand-mère et ma maman, quand elles sont arrivées au centre d'accueil, elles ont tout de suite présenté leurs problèmes. Sa maladie, voilà, le manque de boulot, la vieillesse de la grand-mère et les problèmes de scolarité qui se posaient, les problèmes de la santé aussi qui se posaient. C'était difficile, donc le centre d'accueil a jugé nécessaire de m'accueillir là-bas. Et par la grâce de Dieu, c'est ainsi que je suis arrivé au centre d'accueil et j'ai rencontré un parrain américain, un premier parrain américain. Voilà, avec lui, j'ai pu échanger des lettres. Il m'a beaucoup appris de son pays. Et également, j'ai partagé des informations de mon pays. Voilà, malheureusement, le parrainage n'était pas aussi long. Voilà, il n'est pas allé jusqu'au bout. J'ai eu un second parrain américain aussi. Voilà, et c'est d'ailleurs ce parrain qui, jusqu'à présent, s'occupe de moi, qui prend tout en charge. Voilà, ma scolarité. Et avec lui aussi, j'échange des lettres et j'ai apporté avec moi une photo d'une lettre que j'ai reçue de sa part pour vous présenter. Donc, à travers ces lettres, j'ai beaucoup appris. Il m'a conseillé. quand j'ai passé mon baccalauréat déjà en 2016, pour la toute première fois, ça n'a pas été. Donc je l'ai informé que mon baccalauréat n'a pas marché. Il m'a conseillé à travers ses lettres, il m'a dit « Mon ami, ne te décourage pas. La vie est ainsi faite aussi, d'échecs. Donc ne baisse pas les bras, il faut prier dur et travailler aussi. Travaille, et ça va aller pour l'année suivante. » Donc du coup, quand j'ai échoué l'examen, en 2016, je me suis approché des animateurs qui s'occupent de nous au centre d'accueil. Et j'ai présenté mon problème. Et j'avais un faible niveau en mathématiques et en sciences physiques. Donc j'ai expliqué, j'ai demandé si je pouvais avoir un professeur qui pourrait m'accompagner dans ces domaines. Et le centre d'accueil a veillé à cela. Et grâce à Dieu, l'année suivante, en 2017, nous avons travaillé ensemble, le professeur et moi. Le niveau a été rehaussé et j'ai obtenu le bac en 2017. Oui. Donc, à travers ces lettres, j'ai eu des encouragements, de la consolation. Voilà, quand j'avais échoué, et j'étais déçu de moi. Je n'étais pas content du tout, mais avec sa lettre, j'étais réconforté. Il m'a consolé, il m'a dit, voilà, tu ne décourages pas. Donc, j'ai porté à cœur ses conseils, j'ai travaillé dur pour la semaine, l'année suivante et j'ai réussi. Donc, en plus de ces lettres, je reçois des dons de sa part. Et ces dons m'apportent aussi beaucoup en famille. Et d'ailleurs, j'ai porté une belle chemise avec un pantalon là. C'est grâce à ces dons que j'ai eu à coudre ce que je porte actuellement pour vous présenter. Voilà. Et sur cette photo aussi, c'était à l'occasion, j'ai reçu un don pour la famille. Donc avec lui, je reçois des dons, de multiples dons. Pour la famille, pour mon anniversaire, des dons pour Noël et des dons spécifiques, souvent pour la scolarité. Voilà. Donc, sur cette photo, vous me voyez avec un pain en transversal. J'ai pu m'acheter ce pain grâce à son don. Je me suis acheté également des biscuits. Oui. Et je tiens à droite un livre de la classe de première D que j'ai pris pour ma cousine à l'époque. Voilà, j'ai pensé à elle aussi et pour qu'elle progresse en études, je lui ai fait un petit cadeau de ma part aussi, grâce à mon parrain. Et les sacs en jaune, sont des vivres que j'ai pris pour toute la famille. Donc, bien vrai qu'il faut manger, il faut travailler aussi. Donc, et il faut s'habiller, j'ai pensé aussi, il faudrait manger pour pouvoir s'habiller aussi. Donc, j'ai pris de la nourriture pour toute la famille. Et en gros, ce que j'ai reçu de mon parrain, toute la famille a bénéficié également. Donc, j'ai partagé. Et c'est ainsi que je fais avec ma famille. Régulièrement, avec tous les cadeaux que je reçois, la famille reçoit aussi. Donc, je ne me fais pas seul les cadeaux. Je ne m'achète pas tout seul. Donc, je partage aussi avec tout le monde dans la famille. Et c'est ainsi. Donc, en plus des cadeaux, des dons que je reçois de sa part, j'ai bénéficié également d'une assurance santé, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Chez nous, on n'a pas d'assurance santé, mais grâce au parrainage, on est assuré. Voilà, nos problèmes de santé sont pris en charge, nos ordonnances sont prises en charge. Quand je tombe malade, tout est pris en charge. Ma scolarité est prise en charge également. Je reçois chaque année des fournitures scolaires. Donc, du coup, je suis très bien, je dirais, j'ai un bon suivi scolaire. Voilà, mes problèmes de niveau d'études, tout est pris en charge. Donc, quand j'ai un problème, je me présente au centre d'accueil. Je dis, voilà, j'ai ce problème, je n'arrive pas à rehausser le niveau, donc il faut m'aider avec un professeur. Et cela est fait également. Donc, en plus des lettres, des dons, au centre d'accueil, nous avons aussi plusieurs activités. Et à l'occasion, nous avons fait une sortie à l'intérieur du pays. Et cette sortie m'a permis de découvrir des animaux de mon propre pays. Voilà. Et je n'aurai pas la chance. Certains n'ont pas la chance dans mon pays, en tout cas, de voir ces animaux. Parce que c'est des réserves et ils sont protégés, donc pour avoir accès, il faut un certain nombre de moyens. Et moi, grâce au centre d'accueil, j'ai découvert ces animaux. Et c'était à Zignaré. Voilà, c'est une localité aussi du Burkina Faso, c'était là-bas. J'ai pris la photo, j'ai vu ces animaux de très près. Moi, je les voyais visiblement à la télé, dans les images. Je me posais souvent des questions, est-ce que ce sont des vrais animaux, ça, c'est pas des montages, des dessins. Voilà, mais j'ai pu les voir de si près, donc voilà. Et en plus de cette photo, il y a une autre photo, et c'est à Bazoulé, une localité du Burkina Faso aussi. Voilà, et pour me convaincre que c'est un vrai animal, je me suis posé sur son dos, je l'ai touché, et je me suis permis de prendre une belle photo en l'offrant un poulet. Oui, donc grâce à ce poulet, j'ai cette photo que vous voyez, la merveilleuse photo que j'ai prise. Voilà, et je rappelle aussi qu'avec les cadeaux et les lettres de mon parrain, je les ai accrochées à mon mur. Pour moi, ça a une très grande considération parce que quand je suis souvent dans la solitude, voilà, je repasse ces lettres, je les lis et je pense à lui. Voilà, je découvre. Il m'a même informé quand il se mariait. Du coup, ça me va droit au cœur de savoir que quelqu'un au-delà d'une frontière se donne, accepte, voilà, de me parrainer sans me connaître physiquement. Qui partage tout à travers ses lettres, qui accepte de me donner de son temps, de me soutenir financièrement à travers des prières également, qui profite de cela pour m'enseigner, voilà, et ça me voit droit au cœur. Donc grâce au centre d'accueil, je découvre beaucoup de choses de mon propre pays que certains enfants n'ont pas la chance de voir, et je remercie le Seigneur pour cela. Bon, pour moi, personnellement, ça me voit droit au cœur. Donc, en plus des sorties, voilà, nous avons des métiers à apprendre aussi au centre d'accueil. On nous apprend des métiers pour nous en servir au plus tard dans la vie. Voilà. Bien vrai que je suis en études de géographie. J'aimerais en tout cas continuer les études. Mais toutefois, si ça déraille, avec ce que j'apprends au centre d'accueil, je pourrais me faire des sous. Donc, à l'occasion, j'ai eu à faire de la peinture. J'ai appris comment faire de la peinture. Et c'est sur cette chaise, d'ailleurs, que je reçois mes enseignements à l'église. Donc, j'ai pris le soin de bien la peindre. Voilà, et c'était très amusant. Nous avons appris et ça peut m'apporter beaucoup de choses plus tard. Voilà. Et en plus de la peinture, j'ai été initié en informatique aussi. Et voilà, chez nous, nous n'avons pas totalement accès à l'ordinateur. Et j'ai pu découvrir l'ordinateur, les merveilles de la technologie. J'ai touché, je sais comment manipuler à l'ordinateur. J'ai été initié à tout cela grâce au centre d'accueil, des activités qu'ils organisent. Et aussi, nous avons eu à faire du savon liquide. Voilà, nous avons appris à fabriquer du savon liquide. Donc, je profite de vous informer. Et si vos stocks sont épuisés, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. C'est déjà un métier que je connais mieux, voilà, donc je pourrais me faire des sous avec vous. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. J'ai plein de stocks. Et cette photo, du coup, à gauche, c'est quand je devais effectuer ce voyage pour la toute première fois en France. Voilà, c'est ma première fois de découvrir la France. Et je dirais cela encore grâce au parrainage. Oui, grâce au parrainage que j'ai découvert la France. J'arrive pour la première fois en France, mes impressions, la fraîcheur m'a limé premièrement, mais je me suis accroché, voilà. J'ai pu découvrir beaucoup de choses de la France, je suis à Grenoble, j'ai découvert plein de montagnes, voilà. J'ai un souvenir merveilleux, et je pourrais raconter dès le retour à ma famille que j'ai vu beaucoup de choses. Donc cette photo, quand je devais effectuer le voyage, je suis passé devant l'assemblée, l'église où je suis, je fréquente. Donc, ils ont prié pour moi. Ils ont remis le voyage entre les mains de Dieu. Et jusque-là, tout se passe très bien. Je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.
Merci pour votre attention. On est un on a apporté un petit peu d'Afrique, donc un petit peu de temps un petit peu plus long. Mais voilà, merci d'avoir patienté jusque-là. Je vais juste finir du coup en remettant les choses dans leur contexte. Peut-être aujourd'hui vous dites, bon, on a vu beaucoup de choses sur le terrain. Comment ça se passe pour un parrain ici en France? Donc ils ont tout évoqué ici l'engagement du parrain. Et on l'a vu déjà, c'est dans la prière, de prier pour l'enfant, de le remettre entre les mains de Dieu. Et voilà, de croire aussi que Dieu peut faire des grandes choses dans sa vie comme il l'a fait dans la vie de Jean-Yves. Ensuite, d'écrire. Et ça, c'est toujours aussi un encouragement. Et pour moi, de voir les lettres de Jean-Yves, il les a apportées. Je lui avais demandé un petit peu de voir et de voir qu'il les lit, il les relit et ça lui apporte beaucoup. Et souvent, on sous-estime l'impact de nos lettres et l'impact de ce qu'on peut dire. Mais voilà, je vous encourage aussi, et peut-être pour ceux qui sont parrains, à écrire même un petit mot. Je veux dire, je pense à toi, ça peut faire toute la différence. Et puis, bien sûr, toutes ces activités ne peuvent pas se faire sans un soutien financier, voilà, donc qui est de 28 euros par mois. Et je vais juste terminer. Voilà, si aujourd'hui vous souhaitez nous soutenir, il y a différentes choses, différentes façons de faire. On va se tenir derrière. On a un petit stand si vous voulez venir nous voir. Bien sûr, prier. Prier pour ce qui se passe dans les centres d'accueil, pour les moniteurs, pour les pasteurs, prier pour l'équipe du CEL. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis. Si vous voulez recevoir des nouvelles régulièrement, vous pouvez vous abonner aussi. Voilà, vous pouvez venir me voir. Et si vous ne le savez pas, vous avez quelqu'un d'exceptionnel dans votre église qui s'appelle Alicia. Et Alicia, si tu peux te lever, enfin, je pense que tout le monde te connaît. Mais voilà, qui est un peu votre relais et ici, dans cette église, et que vous pouvez venir voir si vous avez plein de questions sur le CEL. Vous allez la voir et elle a toutes les informations. Et si vous souhaitez l'aider, si vous souhaitez l'encourager, voilà, et ben, allez la voir. Je pense que ça sera une joie aussi pour elle. Si vous souhaitez parrainer, vous pouvez le faire. On a des enfants en attente de parrainage, certains du Burkina, si vous souhaitez vous engager aujourd'hui, et puis ou nous soutenir financièrement. Encore un immense merci pour votre accueil. On s'est vraiment senti en famille, accueillis bien, et c'était chouette pour nous de terminer là-dessus cette tournée. Voilà, merci.